Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine sportmédable. Autour de la table avec moi, Eric Figuère, Eric Savignac, bonsoir. Ricardo Baroni, bonsoir. Pierre Forest. Bonsoir. Messieurs, merci d'être une nouvelle fois avec nous pour voir toute l'actualité sportive nationale, internationale de la semaine et surtout du week-end, parce que ce week-end a été encore une fois chargé. On va démarrer avec du football, la fin de la Ligue 1 ce week-end. Eric Figuère, je me tourne vers vous avec quelques enseignements. Qu'est-ce qu'on en retient de cette dernière journée? La pluie de buts entre Monaco et Strasbourg, Marseille qui est qualifié pour une Ligue européenne.
Alors la pluie de buts, c'est un peu anecdotique, même si ce soir de 5-4 est quand même pas habituel.
Pour les Strasbourgeois.
Ce qu'on peut en retenir, c'est que les équipes qui se battaient pour partir, pour obtenir la troisième place qualificative pour la Ligue des Champions, ont tous perdu. Donc c'est quand même assez original. Surtout Lyon qui recevait Lens. Lens avec une équipe B. Lyon qui avait vraiment besoin de cette victoire pour se qualifier, pour obtenir cette troisième place et qui a pris 4-0 à la maison. C'est plus que surprenant. Donc même s'ils ont fait une belle deuxième partie de saison, finir comme ça c'est un peu embêtant.
Les Lyonnais qui terminent quatrième et donc qui joueront le tour préliminaire.
On sait que le tour préliminaire est très compliqué et peu d'équipes françaises ont obtenu leur ticket de cette manière-là. Donc ça va être difficile. Et puis c'est vraiment moche de finir comme ça. Une très belle victoire pour terminer du PFC d'Antoine Camboiré, hein, qui gagne le derby sur trois rencontres cette année. Ils en ont gagné deux contre le Paris Saint-Germain. Donc ça c'est plutôt une belle réussite, une 11e place je crois au total.
11e, exact.
Au classement final. Marseille qui se réveille un petit peu pour ce dernier match et qui se qualifie pour la Ligue Europa.
Puisque les Marseillais ont battu les Rennais et passent devant eux au classement.
Et la victoire de Marseille fait le bonheur je crois de Lyon peut-être, qui du coup garde sa 4e place. Donc Marseille, ils finissent sur une bonne note. On ne sait pas ce que ça va donner l'année prochaine. On ne sait pas si l'entraîneur va rester, le directeur sportif s'en va, le nouveau a été annoncé.
Oui, mais alors justement, toute la saison, on a parlé de Marseille catastrophe, saison horrible, que on ne voit plus rien. Et finalement, Marseille est cinquième. Marseille est dans le haut tableau. Est-ce que Marseille peut être plus haut?
Marseille doit viser plus haut. Peuvent être plus haut après une saison comme ça là? Non, puisqu'ils n'ont strictement rien montré à part un début de saison qui paraissait flamboyant parce qu'il y avait beaucoup de buts, beaucoup d'actions et le buteur Greenwood était en bonne forme. Donc ça paraissait, je pense que c'était un trompe-l'œil. Et puis après, ils l'ont montré hein, en ayant des résultats, c'est mon avis, hein, en ayant des résultats très faibles.
Pas partagé, Ricardo Baroni.
Ils se qualifient pour la Ligue Europa.
Non, c'est qu'à la moitié du championnat, ils étaient deuxième, Marseille, et puis ils avaient quand même des matchs qu'ils gagnaient, et je trouvais qu'il y avait des bons résultats. Où ça a commencé la dégringolade, c'est quand ils ont perdu leur qualification en Ligue des Champions, quoi. Là, ça a commencé la dégringolade en se passant de l'entraîneur italien. Après, il y a eu problème avec...
Ça vous a piqué le départ du...
Non, ce qui m'a piqué, c'est Rabiot aussi, qui n'a pas été soutenu. Et donc, il y a eu qui a commencé. Mais jusqu'à la mi-championnat, j'ai trouvé que Marseille n'était pas si mal. Même s'il gagnait au ric-rac, quoi, à la limite des fois, mais il gagnait quand même. Et je ne pensais pas qu'ils allaient dégringoler comme ça dans la deuxième partie du championnat, quoi.
Et ce qu'on peut retenir également, c'est la belle victoire d'Auxerre, hein, qui avait besoin de cette victoire pour rester en Ligue 1, et qui du coup envoie Nice en barrage contre Saint-Étienne.
Un gros duel s'annonce.
Alors j'ai rien contre Nice, mais c'est vrai que ça ferait plaisir de revoir, je ne dis pas ça pour Lionel,
revoir
Saint-Étienne monter en Ligue 1, c'est très sympa. Et puis qu'est-ce qu'on avait comme résultat encore? On a fait à peu près le tour.
On a fait le tour, ouais. Effectivement. On va peut-être redonner le classement final. Le Paris Saint-Germain qui termine champion. J'avais aussi une question sur ça, sur le Paris Saint-Germain champion avec 76 points. Lens, deuxième avec 70 points. Est-ce que les Lensois n'ont pas quelques petits regrets quand même? Parce que 6 points derrière le PSG.
Alors, si on regarde simplement le total de points, évidemment qu'ils ont un regret. Mais sur l'ensemble de la saison, malgré tout, même si Paris est champion avec 8 points, je crois, de moins que l'année dernière, ils avaient gagné avec 84 points. Donc là, 76 points. C'est un gap qui est quand même assez important. Mais donc Lens peut nourrir des regrets. Mais sur l'ensemble de la saison, ils ont été un ton en dessous.
Oui,
donc ça ne pose pas de soucis.
Moi, cette dernière journée du championnat, il y a une chose qui m'a fait plaisir, c'est de voir le PFC battre le PSG. surtout entraîné par un Calédonien. Et donc, moi, j'attends de voir s'il reste à la direction de cette équipe, puisqu'on l'a engagé pour sauver l'équipe, pas qu'elle redescende. Moi, j'aimerais bien que pour une fois, il puisse continuer au sein d'une équipe et toute l'année, quoi. Comboiré, ça serait.
A priori, il a une très bonne relation avec le propriétaire, avec la famille Arnaud.
Et on l'a entendu, ceux qui ont écouté le journal à midi, on a entendu Antoine Comboiré réagir et qui veut prendre du temps pour se soigner aussi, qui a des petits problèmes de genoux, mais qui lui est opérationnel pour continuer.
Je pense que s'il connaît sa capacité à redresser, à relever des équipes en difficulté, il a aussi envie de s'inscrire, et c'est tout à fait normal dans la durée, même si on sait que la durée dans le football est quand même une durée toute relative. Et vu les bonnes relations qu'il entretient avec ses propriétaires, et puis surtout les excellents résultats, parce qu'il a fait une très bonne saison avec le PFC, je pense que ça devrait le faire, et en tous les cas, on l'espère.
Affaire à suivre. Donc Paris Saint-Germain premier, Lens deuxième et Lille troisième. Deux clubs du Nord qualifiés pour la Ligue des Champions. Lyon quatrième qui jouera un barrage de cette Ligue des Champions. Marseille cinquième, Ligue Europa. Rennes sixième, Ligue Europa Conférence. Derrière Monaco, Strasbourg, Lorient, Toulouse. Et en bas du tableau, c'est donc Metz et Nantes qui descendent en Ligue 2. On a encore vu des scènes.
J'ai pas les mots pour décrire ces scènes à Nantes. Voilà, le match a été interrompu après 25 ou 26 minutes de jeu, je crois. Il n'a jamais repris. Les spectateurs ont cagoulé son entrée sur le terrain.
Est-ce qu'on peut appeler ça des supporters?
Non, mais on le dit depuis longtemps. Voilà, c'est pas des supporters. On sait que la ville de Nantes connaît des problèmes dans la vie de tous les jours, et ça se traduit dans le stade aussi. C'est pas, comme tu viens de le dire, des supporters. C'est des voyous qui rentrent et qui, sous couvert d'être déçus, voilà, la déception, elle vient pas de ce match-là. Bien sûr qu'ils ont le droit d'être déçus, mais rien ne justifie ça, quoi, bien évidemment. Ouais.
Les supporters qui m'ont le plus déçu, ce sont les supporters du PSG. L'année dernière, ils ont gagné la Ligue des Champions et ils ont saccagé Paris. Et je comprends pas qu'on puisse être supporter d'une équipe et ne pas faire la fête, et qu'il faut se défouler en cassant des tas de choses. C'est un peu à l'encontre du sport, puisque le sport, normalement, c'est fait pour réunir les gens autour d'une passion commune, et là il y a des choses qui se passent au niveau des supporters qui sont assez on a eu dans le passé des hooligans, maintenant on a en France ces gens qui se défoulent. J'ai de la difficulté à comprendre qu'on puisse faire ce genre de choses quand son équipe gagne une Ligue des Champions qui cherche depuis très longtemps à la gagner,
et ça donc, se reproduira cette année malheureusement, quel que soit le résultat de la finale, malheureusement qu'elle soit victorieuse ou que l'équipe soit victorieuse ou défaite.
Et si on revient sur le match de Nantes, c'était aussi la dernière d'un coach emblématique, Vahid Halilhodžić, qui malheureusement... terminera sa carrière sur un match arrêté, c'est pas forcément...
Ouais, c'est très dommage pour lui. Je me demande ce qu'il... Alors, il a pas su dire non, je pense, à la famille Kita, quand ils lui ont demandé de revenir et essayer de sauver le club. Je pense qu'il aurait dû rester là où il était. C'était vraiment pas une bonne chose pour lui. Et de finir comme ça, c'est un petit peu dommageable. Voilà.
Les Nantais et les Messins qui seront donc en Ligue 2 la saison prochaine. Et vous le disiez, le barrage Ligue 1, Ligue 2 entre Nice et Saint-Etienne qui se jouera en match aller-retour dans les prochains jours. Voilà pour cette Ligue 1 qui s'achève. Mais il y a encore une rencontre qui est importante. C'est la finale de la Coupe de France, on peut le signaler, entre Nice.
Bien sûr.
Et Lens, les Niçois qui pourraient être en Ligue 2 et jouer la Ligue Europa la saison prochaine.
C'était déjà arrivé, alors la mémoire me fait défaut un peu, mais c'était déjà arrivé. Alors bien sûr que tout est ouvert, hein. Une finale est très indécise. Lens quand même sur le niveau qu'il a affiché tout au long de l'année, et de finir en plus sur cette finale du championnat de France. Ils sont deuxième qualifiés pour la Ligue des Champions, et une finale de Coupe de France, c'est assez magique de finir la saison comme ça.
Et ce qui permettrait aussi aux Monégasques d'être européens la
sauverait,
saison prochaine.
Ce qui sauverait un petit peu la saison des Monégasques aussi.
Si les Lensois s'imposent, la 7e place deviendrait qualificative.
Voilà, exactement. On en parlait pour l'OM, puisque l'OM n'était pas sûr de finir 6e et encore moins 5e. Voilà. Donc ça sauvera peut-être les Monégasques. Même si pour le coup, là aussi, un petit peu à l'image des Marseillais d'une autre manière, on montrait quand même une saison un peu particulière, quoi, avec beaucoup de beaux hauts et beaucoup de vilains bas.
On verra ça donc dans les prochains jours, là aussi, pour savoir si Monaco se qualifie pour une Coupe d'Europe.
Et quand est-ce que... Je ne me souviens plus de la date de la finale. Bon, c'est bientôt.
C'est très prochainement. Toutes les finales approchent. C'est les champions, général, Coupe de France et les barrages aussi.
Et puis surtout que la Coupe du Monde arrive, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure.
Début juin, du 12 juin.
Moins de 30 jours. Exactement. 26 ou 27 jours, je crois.
Et on se pose des questions en football, mais aussi en rugby, pour savoir qui se qualifiera pour les phases finales, puisque c'est aussi très tendu en haut du champion, en haut du classement. On va passer donc à notre page top 14 avec Éric Savignac, Pierre Forest, vous êtes silencieux depuis tout à l'heure, on va vous entendre un peu plus. Le rugby, c'est votre domaine. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin, le Stade Toulousain qui s'incline contre La Rochelle? C'était attendu, un petit match.
On va dire la 24e journée, je crois que le fait marquant surtout, c'est l'élimination de Toulon, hein. Du RC Toulon qui a perdu contre le Racing à Paris. Et surtout, Toulon, n'oublions pas, il était demi-finaliste de la Coupe d'Europe, qui a perdu contre le Leinster. Puis surtout, l'année dernière, il était demi-finaliste. Il avait été battu par l'UBB, je crois, en demi-finale l'année dernière. Donc Toulon a un gros du championnat qui disparaît, même pas sur...
Qui est 9e et qui s'est incliné contre le Racing, 7e.
Et puis, par rapport à votre question, sur Toulouse.
Les Toulousains qui s'inclinent à La Rochelle.
La Rochelle avait plus à gagner, puisque La Rochelle n'est toujours pas qualifiée. Ils sont encore
8e. Hein.
Il reste 2 journées. Et Toulouse a évidemment fait tourner son effectif, comme on dit, mais depuis le début, ils font tourner l'effectif. Je crois que surtout, ce qui a pêché un petit peu dans ce qu'ils avaient prévu Toulouse, c'est d'être sur les deux tableaux, c'est-à-dire le top 14 et la Coupe d'Europe. Malheureusement, ils se sont fait éliminer en quart de finale, et puis depuis, il faut faire tourner les effectifs, il faut faire tourner...
Avec
une seule compétition. Donc le week-end d'avant, il y a une semaine, ils avaient 12 points d'avance, et là, ils n'en ont plus que 8, donc sur le deuxième, mais on peut penser que... les
8
deux
points d'avance sur Montpellier, 9 sur la section paloise en 2 matchs, 10 points à prendre.
Voilà. Alors, là où il y a embouteillage, c'est, si on peut en parler maintenant, à moins que...
Éric peut-être veut réagir à la défaite toulousaine de ce matin, Éric Savignac.
Oui, en fait, ils sont, comme en fin d'année, ils sont toujours en préparation un peu lourde, préparation physique pour terminer sur les chapeaux de roue. Il leur manque un point pour rejoindre le Vélodrome.
Le Vélodrome, alors c'est pour les
demi-finales, évidemment, à 80, ils finiront entre 87 et 89 points. Comme l'a dit ce matin Hugo Mola, effectivement, il n'y a pas eu trop d'intensité de la part des Toulousains, beaucoup de fautes de main, énormément, plus d'une douzaine de fautes, un carton jaune.
C'est un match perdu par Toulouse, plus que gagné par La Rochelle.
La Rochelle a bien joué quand même, hein, malgré pas mal de blessés. Ils ont quand même perdu Boudéan, Skelton. Ils ont des gros porteurs qui manquent un petit peu. Mais voilà, ils ont une charnière qui a très très bien joué. Ils avaient le couteau entre les dents, c'est-à-dire c'était où ça passe, où ça casse. Ils perdaient ce matin et c'était fini pour au moins la 6e place. Et je pense qu'ils seront dans les 6.
On va faire un petit point du coup sur le classement, sur qui peut encore se qualifier. Alors si en bas du classement c'est terminé pour Perpignan et Montauban, Montauban qui sera en Pro D2 la saison prochaine, Perpignan qui jouera les barrages entre la Pro D2 et la Top 14. En haut du tableau, le Stade Toulousain donc premier 82 points, Montpellier 74, la section Palace 73, Stade Français qui revient à 73 points également, l'UBB 68, Clermont 67, le Racing 65 et le Stade Rochelet 63. Ils sont donc 8 à pouvoir prétendre aux phases finales. 4 pour les demi-finales directes entre le Stade Toulousain, Montpellier, la section paloise et le Stade Français. Pierre Forest, comment on analyse ces 2 dernières journées? Tout est encore possible.
Alors pour la deuxième journée, comme vous l'avez dit, ça va se jouer entre Montpellier 2e actuellement devant Pau à 1 point.
Et qui vont s'affronter.
Le Stade Français. Et donc là, si on peut penser, les 3 équipes vont recevoir une fois chacun et vont se dépasser une fois chacun pour les 2 dernières journées. Si on peut penser que ça sera très difficile d'aller gagner à l'extérieur, sauf d'aller jouer à Montauban. Même si j'ai rien contre Montauban. Mais ça va être très difficile d'aller gagner à l'extérieur. Donc on peut penser que comme Montpellier va recevoir Pau,
Pau ira recevoir Montauban pour la dernière journée.
Donc Montpellier devrait pouvoir garder sa deuxième place, surtout qu'en recevant Pau, ils vont quand même aller à Lyon, qui n'a plus rien à jouer dans le championnat. Le loup est largué pour être qualifié. Donc on devrait avoir Montpellier pour la deuxième place de demi-finaliste. Et puis après, c'est Pau, Stade Français. Stade Français qui reçoit Bayonne.
Et qui jouera contre La Rochelle.
Mais qui ira aussi à La Rochelle. Donc on devrait avoir à peu près le même classement. Montpellier 2e, Pau 3e et le Stade Français 4e. Donc ils seront encore qualifiés pour la phase finale.
Oui, Éric Savignac, c'est à peu près la même analyse sur les qualifiés ou il y a des petites...
Oui, les deux premiers, bon, Toulouse intouchable. Montpellier devrait conserver la deuxième place
Montpellier qui joue quand même une Coupe d'Europe et qui va peut-être devoir faire tourner aussi une finale de Challenge Cup.
Ouais, ils ont la profondeur de banc. Et puis bon, en fait, c'est les équipes qui vont rencontrer sur les deux dernières rencontres. Bon, il y a ce match difficile contre Pau, mais il y a quand même Montauban qui a lâché l'affaire. Après, au niveau de Lyon, on ne sait jamais. Hein, ils peuvent sortir des matchs du chapeau, ils n'ont plus rien à jouer, mais faire plaisir à leur...
À leurs supporters,
d'autant plus qu'ils vont aller à Toulouse. Ça ne va pas être évident. Toulouse va se rendre ensuite au Racing. Il est fort possible qu'il lâche un peu le match. Mais voilà, derrière Pau, Stade Français, on voit bien l'UBB remonter, mais il y aura un match décisif et très intéressant entre l'UBB et Clermont. Clermont est sur une belle dynamique. On a vu un beau match, on a vu un match très intéressant, notamment au stade gagné contre le Stade Toulousain. Donc voilà, je pense que le Racing passera peut-être à la trappe. Ils ont un peu moins d'effectifs.
Il y aura forcément des déçus. Donc le Racing et puis La Rochelle qui resterait en dehors de ses places qualificatives.
La Rochelle, ils sont sur une bonne dynamique, mais il y a cette profondeur de banc et c'est blessé. Ce sera difficile de faire tourner. Mais voilà, ils peuvent être performants comme ce matin sur un match.
Il faudra battre le Stade Français de toute manière sur la dernière journée.
Ça sera peut-être la surprise, La Rochelle, à mon avis, hein, sur les places qualificatives. Ils sont 8e en ce moment avec
63 points. Et mais clairement 67.
Ils vont à Montauban, donc on peut penser qu'ils iront faire le bonus à Montauban. Et ils reçoivent le Stade Français. Donc si on part du principe que toutes les équipes maintenant qui jouent un peu comme ils ont joué ce matin contre le Stade Toulousain, où ils ont le couteau sous la gorge et ils sont obligés de gagner avec le bonus, 2 fois 5 points, ça fait 10 points. Ils peuvent passer devant soit la Racing, soit Clermont.
Moi, je les vois dans les 6.
Voir Bordeaux. Voir Bordeaux, parce que l'UBB, ils ont quand même la finale le week-end prochain contre Leinster. Donc, selon qui gagne ou selon qui perd, comment ils vont être sur la reprise du championnat pour l'avant-dernière journée, quoi.
C'est ça, les deux dernières journées qui se joueront. Donc, le dernier week-end du mois de mai, le premier week-end du mois de juin. Et avant ça, il y aura donc les finales de Coupe d'Europe, la Champions Cup avec l'UBB et la Challenge Cup avec Montpellier.
Avec Montpellier.
Voilà, ces deux équipes qui, donc, encore peuvent remporter 2 trophées d'ici la fin de saison.
L'UBB avait fait tourner ce week-end.
Et on l'a vu, et d'ailleurs, on l'a vu ce week-end, hein, ils ont voulu faire tourner, mais ils ont failli perdre contre l'USAP.
Tout le monde,
ils étaient en difficulté
très, très contre
l'USAP. Oui, oui. Et il a fallu rappeler tous les titulaires qui pensaient faire opposer. Mais...
Ouais, il n'y a pas de match facile et de match lâché sur le rugby. Hein. On doit toujours s'engager et puis il y a toujours faire plaisir à ses supporters pour les derniers matchs. Quelques places aussi pour les coupes d'Europe l'an prochain pour les classements.
Donc, on peut rappeler qui est qualifié pour quelle compétition, les 7 premiers, les 8 premiers en Champions Cup.
Les 6 premiers, c'est les 8 premiers.
8 premiers, puis les derniers plus le champion.
Et le challenge, c'est les 4 jusqu'à 12.
Jusqu'à 12.
Oui, parce que le top 14 fournit 12 équipes pour les deux Coupes d'Europe. Donc 8 et 4.
Donc jusqu'au bout, il faut se battre, même pour la 8e place, entre la 8e et 9e.
Même Toulon, s'il ne se qualifie pas dans les 6 pour le top 14.
Il faut jouer là jusqu'à la 8e place pour aller...
Ça va même arriver en demi-finale, hein, donc la Champions Cup. Donc,
Alors, autre compétition, si on reste sur le rugby, puisque le top 14, on suivra ça jusqu'au premier week-end du mois de juin. Il y avait la dernière journée du tournoi destination féminin. Et malheureusement, une fois de plus, l'équipe de France qui bute contre l'Angleterre lors de la dernière journée. Les deux équipes étaient à égalité, 4 victoires bonifiées sur les 4 premières journées. Et la dernière, Pierre Forest, ça passe pas pour l'équipe de France face à l'Angleterre. Il n'y a toujours pas les clés.
Je crois que vous l'avez dit la semaine dernière avec Bruno, hein, c'est les Anglais sont toujours au-dessus du lot, même si on peut constater qu'il y a une sensible amélioration des Françaises, qui ont quand même marqué 4 essais pour en prendre 6 derrière. Mais il y a quand même du mieux. C'est vrai que c'est dommage qu'ils aient changé d'encadrement ils ont un nouvel encadrement depuis le mois de janvier seulement de cette année. Pourquoi ne pas l'avoir fait bien avant? Donc voilà, mais la différence, elle est toujours là entre les Anglaises.
Vaincu depuis 4 ans, voilà, depuis le Mondial 2022, les Anglais.
8e défaite de l'équipe de France contre l'Angleterre,
beaucoup. Et puis y a les Anglais se jouent dans un championnat professionnel, hein, ils sont tous professionnels. Et non, mis à part, je crois, la dizaine ou la douzaine de joueuses qui ont un contrat avec la fédération,
quand on voit que la capitaine Feuleu, qui est une foutounienne, elle est en cinquième ou en sixième année de médecine, donc elle poursuit ses études de médecine et puis sa carrière internationale. Donc c'est le point d'interrogation actuellement du rugby français, c'est de faire basculer le rugby féminin vers le professionnalisme. Tout le monde en parle depuis deux ans, depuis trois ans, sachant qu'ils ont quand même une filière de formation entre les moins de 18, les moins de 20 qui performent. Mais tout ça pour arriver à l'étage supérieur, puis de voir les meilleurs éléments, peut-être partir en Angleterre, puisque...
Ce qui est bien, c'est qu'il y avait 35 000 spectateurs pour ce match.
Et oui, 35 000 à Bordeaux. Ouais.
Alors, on rappelle le score, hein, 43-28 pour les Anglaises, une première mi-temps pas catastrophique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais 26-7 pour les Anglaises, Eric Savignac, sur une première mi-temps comme ça, prendre autant de points et autant d'essais, c'est terminé, même si on revient en seconde période, l'écart est déjà trop important.
Pourtant, sur la totalité du match, c'est 58% de possession de la part des Françaises. Donc, elles ont eu le ballon. Comme dit Pierre, effectivement, hein, c'est un bulldozer qu'on a en face. C'est une montagne à gravir. Sur le bulletin scolaire des Françaises, on a un résultat médiocre, mais peut mieux faire et sont en progrès. Voilà. Et c'est encourageant. Il y a, depuis la prise de fonction du nouvel encadrement, il y a, je trouve, plus de technicité et de circulation de balles, mais on voit que par rapport aux Anglaises, et certainement dû au professionnalisme, il y a encore ces tombées de ballon, ces manques de manipulation. Et puis, les Anglaises, elles ne loupent pas une séance de muscu. Quoi. On voit quand même que devant, c'est du lourd.
C'est athlétique.
C'est athlétique, c'est professionnel. Et de là, aux impacts, ça fait mal. Mais c'est vrai que sur l'ensemble du jeu, le score ne reflète pas forcément l'engagement des Françaises.
J'ai lu une ce matin d'un média métropolitain qui disait si près, si loin.
C'est une bonne formule. Hein. C'est vrai que on a qu'à progresser dans des phases d'impact, dans la distribution du jeu. Mais en face, voilà, 8e Grand Chelem d'affilée, 22 victoires dans le tournoi d'affilée, 42 matchs
sans... 4 années d'invincibilité.
41 matchs sans invincibilité. On parlait de ça à une époque sur les Blacks. Voilà, quoi. Elles ne sont pas championnes du monde pour rien. Mais voilà, les Françaises ont quand même fait un superbe tournoi. Alors, il y a les deux, la France, l'Angleterre et puis les autres.
Voilà. Maintenant, il va falloir se confronter aux équipes de l'hémisphère sud.
Voilà. La Nouvelle-Zélande qui est toujours là aussi. Donc, c'est du professionnalisme. Hein, donc. Et d'ailleurs, le manager des équipes anglaises, c'est un Néo-Zélandais. Hein, ça veut tout dire.
On suivra les performances.
Mais je crois que là, il faut vraiment signaler que malgré le score, il y a quand même...
Du positif aussi, on le voit en seconde période, avec une seconde période remportée par les Bleus. 21-17, on peut se satisfaire de ça et garder ça pour la suite.
Il faut garder pour la suite, et je crois que de ce qu'on a retenu à l'issue du match, c'est tout le monde est motivé pour progresser encore, et notamment ratier le nouvel encadrement.
Pour faire tomber les Anglaises. 17h30, l'heure pour nous de marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie d'une semaine formidable.
RRB, la pub.
Envie d'une couleur intense qui dure vraiment ? Avec Palette, profitez d'une couleur permanente, enrichie d'une crème soin pour des cheveux doux et brillants. Résultat, une couleur éclatante et une tenue jusqu'à 8 semaines. Blond, brun, acajou, révélez la nuance qui vous ressemble. Palette, vivez la vie en couleur.
Le tout info continue avec la BCI. Particuliers, professionnels, entreprises, avec la BCI, des solutions sur mesure pour construire et accompagner tous vos projets. BCI, ensemble, voir plus loin.
RRB, 16h-19h, le tout info.
Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir, rebonsoir à tous. On ouvre cette seconde partie d'une semaine sportmidable avec vous, Eric Figuère, spécialiste golf ce soir, une fois de plus, pour revenir sur le PGA Championship, le deuxième majeur de la saison.
Tout à fait.
Et une victoire avant la compétition, si on vous avait annoncé la victoire ce matin pour nous, ça aurait été une surprise.
Bien sûr. Alors, bien sûr que on n'aurait pas parié. La cote était assez importante pour ce joueur. Aaron Rye. Un Anglais de 31 ans. Un solide joueur, pas n'importe quel joueur quand même. Mais évidemment qu'on n'aurait pas parié sur lui, puisqu'il y avait des joueurs. Mais c'est le propre du golf. On en parle assez régulièrement. Au golf, il y avait 156 joueurs au départ. Et si on enlève les 20 enseignants professionnels qui s'étaient qualifiés pour ce tournoi, puisque c'est un tournoi un peu particulier, qui permet à des enseignants, via des qualifications, de jouer ce tournoi. Donc c'est le seul qui le permet. Si on enlève ces 20 joueurs-là, sur les 136 restants, il y en avait une très très grosse cinquantaine qui était en capacité de gagner. C'est le golf qui permet ça. Je parlerai peut-être, si j'ai la chance de parler de tennis tout à l'heure, c'est très différent de ce sport-là, par exemple. Là, il y a vraiment beaucoup de monde qui peut gagner. Évidemment qu'on n'aurait pas, on ne pensait pas que lui pouvait gagner, même pas après 3 tours, puisqu'il avait, je crois, 2 coups de retard à l'entame du dernier tour. Il a joué superbement bien, il a été plus qu'à la hauteur. Mais au-delà de parler d'Aaron Rye, on peut parler aussi du parcours, puisque d'ordinaire, c'est le majeur suivant, c'est-à-dire dans un mois l'US Open, qui fait l'objet d'un entretien et d'une préparation particulière, qui fait qu'il est le plus difficile, le plus dur à jouer, avec un entretien avec des roughs. Les roughs, c'est la partie qui borde le parcours, là où les joueurs doivent placer leur balle, qui est tellement épais, en fait, qu'il est très difficile pour eux de mettre leur balle sur le green et donc de scorer. Et là, cette fois-ci, eh bien, le parcours était quasiment digne d'un US Open. Et ce qui a fait que les scores, pour une fois, étaient extrêmement, pas extrêmement bas, mais extrêmement hauts. Et qu'il y avait une densité de joueurs en capacité de gagner ce tournoi après 3 tours, puisque je crois qu'ils étaient une bonne quarantaine en 6 coups. Et sur un parcours aussi difficile que ça, ça peut aller très très vite. Et pour le coup, Aaron Rye a été assez fabuleux. Il a joué.
Il s'est amélioré de jour en jour. C'est
sur ce tournoi-là, le PGA Championship, c'est la première fois qu'un joueur améliore ses scores tout au long de la semaine, c'est-à-dire des 4 tours.
70, voilà. 69, 67, 65.
C'est la première fois que ça arrive et la 7e fois, je crois, de toute l'histoire, tout majeur confondu. Donc c'est dire quand même la hauteur de la performance. Il était 44e mondial, donc je disais tout à l'heure qu'il y avait une cinquantaine de joueurs en capacité de gagner ce tournoi. C'est vrai, parce que je pense que c'est très rare que ces tournois-là échappent à un des 50 meilleurs joueurs du monde. Là, il était 44e, il avait toutes ses chances, il avait déjà performé, il s'était déjà largement montré digne d'être capable, pourquoi pas, un jour de gagner un tournoi majeur.
C'est son premier,
ce qui va compter, parce que des joueurs qui ont gagné un tournoi majeur, alors c'est fabuleux pour eux, bien sûr, fabuleux pour l'histoire, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de débat, mais ce qui compte pour ces joueurs-là, avant tout, c'est d'être capable, si ce n'est d'en regagner, au moins de continuer une très très belle carrière et continuer à être performant. Et très souvent, lorsque des joueurs gagnent sans être vraiment parmi les favoris, quand ils gagnent un tournoi, il est très difficile derrière de pouvoir continuer à rester au plus haut niveau. Là, je pense que c'est un joueur, très solide, et je pense qu'on devrait continuer à le voir. Déjà l'année prochaine pour la Ryder Cup, on est un peu en avance, c'est la course à la qualification est, je crois même pas, à peine lancée, mais c'était déjà un joueur sérieux, et là il l'est évidemment encore plus, mais il a été, pour aller chercher cette victoire, et il suffit pas de bien jouer, il faut vraiment être mentalement hyper solide, et comme je le disais, sur un parcours aussi difficile que ça, tous les autres s'y sont cassés les dents. Et les plus grands, puisque beaucoup de grands noms n'ont même pas passé le cut, c'est-à-dire ne se sont pas qualifiés pour les 2 derniers tours. Et les 2 numéro 1 mondiaux, alors Rory McIlroy a un petit peu mieux joué que Scottie Scheffler, mais lui aussi pouvait revenir, puisqu'il avait très peu de coups d'écart à l'entame du 4e tour. Et puis, c'était très difficile, il fallait mettre sa balle sur les fairways. Et ce que peu ont réussi à faire, aussi bien que Aaron Rye, donc on le cite encore, 31 ans, joueur anglais, 44e mondial. Aujourd'hui, je pense qu'il va gagner probablement une quinzaine de places. Et puis, il a augmenté son compte en banque, on peut le dire aussi, de 3 700 000 dollars.
Voilà. Une victoire qui
voilà,
fait
c'est une
fait
belle bien. Victoire grâce au Leaf Golf, vous savez, le circuit saoudien qui s'est monté il y a quelques années. Les dotations ont été considérablement augmentées pour les joueurs. Donc espérons qu'elles augmenteront aussi les dotations pour les joueuses. Voilà, parce qu'il y a toujours un grand déficit, même si c'est un problème plus global et que des fois ça s'explique, mais bon, espérons qu'un jour. Voilà. Donc très très belle victoire d'Aaron Rice, ce joueur anglais, magnifique.
Et on va passer du coup d'une belle victoire en golf à une belle victoire en tennis tout d'abord, avec celle une fois de plus de Yannick Sinner, un Italien. Voilà, il les enchaîne, les majeurs, c'est les majeurs, les masters, masters en tennis.
Bah
masters,
oui, parce que là,
Masters 1000 d'Europe,
là, c'est les records,
contre Casper Ruud en 2-7, 6-4, 6-4. Alors on a cru comprendre qu'il y avait un petit coup de moins bien, Ricardo Bardi, mais il est encore là et il est prêt pour Roland-Garros, qu'il n'a jamais remporté.
Ben,
dès
que la compétition s'est terminée, on a commencé déjà à parler de Roland-Garros, de la récupération. Il ne faut pas oublier que les Italiens ont gagné aussi le double masculin. Donc ça a fait énormément plaisir aux Romains qui étaient sur place pour regarder cette finale. Et puis il n'avait jamais gagné ce tournoi Sinner, donc un Italien qui gagne en Italie. Évidemment que ça fait plaisir aux Italiens.
C'est une première depuis 1976.
C'est 50 ans, voilà.
Panetta.
C'est Panetta qui avait gagné, il y a 50 ans. Et j'ai regardé le match et il y a quelque chose qui m'a ému, c'est l'attitude du président italien qui est allé sur le podium remettre la coupe. Et ce qui me surprend auprès de ce président italien, c'est qu'il est passionné de sport. Et quand les sportifs le voient, c'est comme s'ils voyaient le papy, quoi. C'est pas le président, c'est une attitude très amicale, humaine. Et ça fait toujours plaisir aux sportifs de le voir sur... Il était présent aux Jeux Olympiques d'hiver. Et donc, les compétiteurs ont toujours beaucoup de plaisir à le voir. Donc, on attend Sinner, voir s'il est capable de tenir sur Roland-Garros, parce que ça fait un petit moment qu'il joue et qu'il gagne. Et donc, ça va être difficile physiquement d'aller... jusque-là.
Mais qui peut l'arrêter quand on sait qu'il n'y aura pas son concurrent principal, Carlos Alcaraz? Ricardo, comment... Qui honnêtement, est-ce que les Français, Arthur Fils, sera capable de se transcender sur le tournoi à la maison? Est-ce qu'il y a d'autres têtes de série qui sont là pour venir l'embêter, le titiller un petit peu?
Ben, je pense que son plus grand adversaire, c'est lui, puisqu'on a vu qu'en demi-finale, il avait des problèmes de physique. Donc je pense que ça va être difficile pour lui physiquement après tous ces tournois de tenir la distance à Roland-Garros. Maintenant, une finale Sinner-Fils, on signe tout de suite.
Oui, même question.
Je voulais surtout parler de lui parce qu'il égale Rafael Nadal dans la même année, pas dans la même année, à pouvoir gagner les trois Masters 1000 sur terre battue. Et il égale Djokovic en ayant gagné tous les Masters 1000 qui existent. Donc ça, c'est assez fabuleux. Il lui manque un tournoi du Grand Chelem, Ricardo vient de le dire. Alors évidemment qu'il est l'ultra favori, ça ne suffit pas toujours pour gagner les tournois, mais il est tellement fort, sauf à ce qu'il se blesse, voilà, ou que la répétition des matchs l'ait à ce point entamé physiquement. Roland, c'est au meilleur des cinq manches, si c'est disputé contre lui. Donc la seule chose, voilà, c'est son physique qui pourra éventuellement lui causer des soucis.
Et on va rester, oui,
physique et mental aussi, parce que pour tenir sur une longue distance comme ça, il faut aussi au niveau mental. Et on sait très bien que les performances des sportifs de haut niveau, il y a une grande partie qui est mentale.
Et on va justement, en parlant de performance, on peut parler en cyclisme. On reste en Italie, chez vous, avec la victoire de Jonas Vingegaard sur le Giro, qui se rapproche petit à petit du maillot rose de leader.
Oui, ce qui est bizarre de parler du Tour d'Italie, c'est que je vais vous parler du Tour de France, puisque quand on voit le Tour d'Italie et qu'on écoute les commentaires, c'est toujours en rapport à son doublé qu'il souhaite faire, hein, Jonas Vingegaard. Il souhaite doubler Tour d'Italie et Tour de France. Et on voit qu'un équipier de Paul Sexas arrive qu'à 13 secondes de Jonas sur une étape de montagne qui était le Blocos. Donc on se dit Paul Sexas est nettement au niveau et même supérieur à son équipier. Donc ça nous promet pour le Tour de France. Donc c'est rigolo de voir le Tour d'Italie et que dans les commentaires, les gens qui sont à l'antenne nous parlent du Tour de France. On a aussi Paul Magnier qui est français.
Les trois premières journées.
Tout à fait, qu'il y en a une qu'il a perdue à Naples, mais c'est vraiment parce qu'il y a eu une chute juste au dernier virage. Sinon, il tombe. Non, il ne tombe pas, il déchausse et il repart et il fait encore troisième. Donc je pense que cette étape, elle était aussi pour lui à Naples. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup français sur ce Tour d'Italie. Il y a aussi un coureur que je ne connaissais pas spécialement, mais qui est pas mal.
Mathis Rondel,
22 ans, qui les arrivées au sommet a fait dans les 10 premiers à deux fois. Donc au classement général, il est très bien placé. Lui aussi, ça nous promet pour le futur. C'est pour ça qu'on parle souvent de Paul Sexas, mais il y a plein de Français derrière qui sont aussi des coureurs performants et
jeunes,
je pense que
aussi, très jeunes.
Et qu'il ne faut pas oublier dans les compétitions. Ces derniers temps, Paul Sexas a surtout effacé ses compatriotes, mais il y a beaucoup de Français qui sont performants. Paul Magnier, Mathis Rondel, il y a encore Kevin Vauclin, Lenny Martinez, etc. Donc il y a une nouvelle génération de coureurs français qui sont vraiment très très performants. En revenant au Tour d'Italie, ça fait encore penser au Tour de France. Thomas Voeckler, dans une échappée où il fait deuxième, il prend le maillot jaune et il met du temps à le lâcher. Là, c'est la même chose. C'est un Portugais qui a pris le maillot rose, qui actuellement avait fait à l'étape deuxième. Pour ceux qui ont regardé cette étape où il fait deuxième ou qui n'ont pas encore regardé, je conseille de vraiment regarder cette étape parce qu'il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui retombe, il se relève, il se trompe de route. C'est vraiment un suspense assez, le Tour d'Italie, c'est où tout le monde peut avoir des résultats et donc ça permet d'avoir un suspense assez incroyable. Il n'y a qu'à voir, l'équipe UAE a perdu trois coureurs en Bulgarie et ils ont déjà gagné trois étapes. Et trois étapes, des coureurs qui habituellement ne gagnent pas spécialement des étapes, puisque quand ils ont dans une équipe un coureur comme Pogacar, c'est assez difficile de gagner. Donc ça permet de regarder un peu et de voir des coureurs qui ne sont pas très connus être devant. Et comme ce coureur portugais qui est maillot rose, eh ben, moi personnellement, je le regardais de temps en temps faire des courses parce qu'il était performant, mais jamais j'aurais pensé qu'il prenne le maillot rose et qu'il le garde encore jusqu'à l'étape de repos qui est cette nuit, avant le contre-la-montre de 42 km.
La question maintenant, c'est est-ce qu'il tiendra jusqu'au bout ? Surprise, il reste encore deux semaines de course. On suivra donc ça, le Giro qui continue sur les routes italiennes. La fin de cette émission dans quelques instants. Je vais vous laisser quand même quelques secondes pour vos coups de cœur du soir. À ma gauche, à ma droite, qui veut commencer ?
Pourquoi
Eric Figuère, allez.
Et l'équipe de golf de Tina qui s'en va cette fin de semaine pour la France pour participer au championnat de France par équipe, 3e division, et tenter évidemment d'accéder à la division supérieure, la 2e. On se rapproche du très très haut niveau. On a 6 joueurs pleins de talent qui vont défendre les couleurs du club de Tina. Et
vous serez du voyage ?
Je serai du voyage. Pas en tant que joueur, hein. Ils sont bien bien meilleurs que moi, mais ils ont besoin qu'on les accompagne. Donc espérons que tout se passe bien. Et puis une petite pensée pour Thierry Navarro, qui est parti la semaine dernière. Voilà, beaucoup ont parlé de lui ici sur cette antenne. NC La Première, bien sûr. Beaucoup ont parlé de lui et on peut encore en parler peut-être une dernière fois, je ne sais pas. Mais
un bel hommage,
une pensée pour lui en tous les cas. Très très grand sportif. Voilà, il a marqué le sport calédonien.
Éric Savignac, votre coup de cœur, vous en avez peut-être deux, non ? J'ai entendu parler d'Antoine Griezmann, peut-être ?
Oui, ben le départ émouvant d'Antoine Griezmann au milieu de ce stade de l'Atlético.
500e match.
Oui, vraiment pour formidable. L'entrée d'abord avec ses enfants, et puis cet hommage qu'il a eu, c'est toujours plaisant. C'est un joueur que j'apprécie, puisqu'il va continuer en MLS.
Ce qu'on apprécie tous, je pense.
Tout à fait,
Antoine Griezmann, qui a toujours eu
la banane. Et puis, côté rugby, un petit hommage à Scott Hastings, puisque oui, ça a bercé mes samedis après-midi.
61 ans, c'est jeune.
Donc Gavin et l'équipe d'Écosse, voilà, qui berçait nos samedis après-midi pendant le tournoi des 5 nations.
Ricardo Baroni,
mon coup de cœur, c'est un geste que j'ai vu au MotoGP de Catalogne, où on voit les adversaires de Pedro Acosta, après un accident assez spectaculaire, le pousser jusqu'à son équipe pour qu'il puisse changer de moto et repartir, et de voir deux adversaires qui le poussent pour aller jusqu'au garage, c'était assez Moi, je trouve que c'est un beau geste sportif.
Un Grand Prix spectaculaire avec la blessure notamment de Joan Zarco, touché au ligament, au ménisque. On espère qu'il sera de retour
fracture,
le plus rapidement possible sur les circuits. On termine avec vous, Pierre Forest.
Oui, je vais m'associer à l'hommage qui est rendu à Thierry Navarro, que Eric vient de dire. Un grand sportif, puisqu'il était très polyvalent et puis il a joué également au rugby.
C'est un super club mec.
Fidèle
de l'Olympique.
De l'Olympique. Donc, une pensée à lui, à sa famille et surtout à son frère Patrick également.
Et merci, cet hommage est partagé par l'ensemble de la radio également, on l'a déjà rendu dans la semaine et on réitère aujourd'hui 17.